Voilà.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
C'est demain que s'ouvre à Marrakech et pour 15 jours la 22e conférence des Nations Unies sur le climat, la COP22. Un an après l'accord de Paris, à travers lequel 193 pays se sont engagés à ne pas dépasser les 2 degrés de réchauffement global du climat de la planète, voire à le limiter à 1,5 degré. Que peut-on attendre de cette nouvelle conférence ? Avec nous pour en parler, deux invités. Pierre Radan, bonjour.
Bonjour.
On peut dire que vous êtes un peu notre professeur climat sur RFI.
Eh oui.
Et vous êtes aussi le président de l'association CADD. À vos côtés, David Levaille, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Alors, première question, Pierre Radan, quelle est la différence majeure entre la COP21 et la COP22 ?
Tout. On a été dans une période très difficile qui a commencé en 2001 avec le retrait des États-Unis du protocole de Kyoto. Et il a fallu 15 ans pour reconstituer une humanité unie sur cette question du climat avec donc cet accord de Paris. Donc on sort de 15 années qui ont été dominées par la politique. Il fallait aller chercher un accord universel. Alors bien évidemment, cet accord universel, certains diront qu'il est un peu plus petit dénominateur commun. Mais ce qu'on a compris avec la situation américaine en 2001, c'est que quand un grand pays sort du jeu, il y a plein de pays qui en profitent pour se débiner. Et donc la substance, l'engagement diminue. Et donc il fallait cet accord-là. Maintenant, on a l'accord de Paris. Alors, il est dans un chaudron avec un très beau couvercle et on n'a pas le droit de le réouvrir. Et donc, on va avoir une difficulté. C'est-à-dire qu'on a une conférence qui change complètement de nature. La partie politique est terminée. Maintenant, la question, c'est comment on met tout ça en œuvre ? Qui se mouille ? Alors, bien sûr, les pays, mais aussi derrière les pays, tous les acteurs économiques, les collectivités locales, et puis chacun d'entre nous, comment on va infléchir notre vie par rapport à ça. Donc, on passe maintenant complètement à une nouvelle période.
Alors, David Levaille, l'accord de Paris est entré en vigueur vendredi dernier. C'est une bonne nouvelle, on se dit super, cet accord est entré en vigueur, mais ça veut dire quoi, concrètement ?
C'est une excellente nouvelle parce que personne n'aurait supputé il y a un an, au moment où on a signé, enfin, au moment où on a conclu les négociations à Paris, que l'accord en rentrait en vigueur même avant 2018. On disait l'important c'est qu'il entre en vigueur avant 2020. Et il y a eu un effort diplomatique et politique intense tout au long de l'année, d'abord à l'initiative de la présidence française de la COP, mais aussi du fait du chef des grandes puissances et des grands émetteurs, notamment les États-Unis, la Chine, enfin les petites îles qui sont les premières victimes du réchauffement climatique, elles aussi ont beaucoup contribué à conserver cet élan, à la fois dans les pays, à mobiliser la société civile. Et donc, la première excellente nouvelle, c'est que alors qu'à Paris, on s'est dit, bon, voilà, on a tourné une page, maintenant, le climat, on va plus trop s'en préoccuper parce que on avance. En fait, on se rend compte que finalement, ça reste un sujet principal, primordial pour la société civile, pour les gouvernements, pour les politiques publiques. Et donc, c'est au sommet de l'agenda et ça le demeure. Et donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Désormais, maintenant, c'est ce que disait Pierre, le vrai sujet, c'est la mise en œuvre. On a passé des années à se dire pourquoi on négocie, sur quoi on négocie, vers quoi, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on le fait. Et donc, l'enjeu de la COP de Marrakech, ça va être de déterminer concrètement qu'est-ce que ça veut dire, ce sur quoi on s'est mis d'accord, comment est-ce qu'on obtient ces 2 degrés, et surtout comment on travaille en coopération au niveau international pour arriver à des résultats et à démontrer ces résultats.
Alors justement, qu'est-ce que les pays vont donc négocier à Marrakech ? Les attentes des pays africains sont énormes, parce qu'ils sont très impactés. C'est Nina Faux, le président du groupe Afrique dans les négociations internationales, nous résume ces attentes.
Les attentes des pays africains sont claires. 5 points. Le premier, c'est une mise en œuvre équilibrée de l'accord de Paris, parce qu'il faut savoir qu'à la différence des autres accords, notamment du protocole de Kyoto, le périmètre de couverture de l'accord touche non seulement à la réduction des émissions des gaz à effet de serre, mais à l'adaptation, par exemple, aux impacts du changement climatique, les questions de financement, les questions de renforcement de capacités technologiques. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ce que nous avons appelé l'agenda de l'action, c'est-à-dire renforcer l'action climatique d'ici à 2020. Il faut savoir qu'à Paris, plus de 70 coalitions couvrant 12 secteurs thématiques, c'est-à-dire les transports, l'énergie, l'agriculture, tous ces secteurs en fait, sur lesquels repose l'économie mondiale, des coalitions se sont formées, des coalitions entre secteurs privés, acteurs non étatiques, collectivités, plus de 10 000 initiatives individuelles. Quatrièmement, le financement. Non seulement augmenter les volumes de financement, mais aussi simplifier l'accès au financement climatique. Et puis, dernier point, c'est le renforcement de capacité. Le renforcement de capacité dans l'intégration du changement climatique dans la planification du développement, renforcement de capacité pour élaborer des projets et des programmes, avoir accès au financement climat, renforcement de capacité pour mettre en place des cadres d'évaluation, des cadres de suivi de l'action climat.
Alors Pierre Radan, il y a beaucoup d'attentes, hein, comme je le disais, du côté du groupe africain. Selon vous, est-ce que ce que vient de dire Céline Info résume les sujets qui vont être négociés pendant 15 jours quand même, hein, pendant cette COP?
Je ne crois plus qu'on soit dans une négociation.
Mais quand même, il va y avoir des gens autour de la table dans des salles pendant 15 jours. Ils vont bien faire quelque chose.
Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé à Paris? À Paris, le futur a changé de direction. Et donc, tout le monde comprend maintenant qu'on va changer de système technologique. Hein. On va être obligé de sortir du pétrole au niveau des transports, avoir des logements bien isolés, développer massivement les énergies renouvelables, avoir une agriculture adaptée au changement climatique, protéger les ressources en eau, notamment dans les zones arides. Bon, donc, vous voyez, on est maintenant dans un futur dont on a aujourd'hui, je dirais, une écriture. Une écriture de qu'est-ce qu'il va falloir faire dans ce siècle. Et donc maintenant, c'est mobiliser l'ensemble des acteurs et puis bien sûr se mettre d'accord sur des modalités de mise en œuvre. Mais on n'est plus au sens politique dans une négociation.
Mais par exemple, sur les engagements des pays, il faut de la transparence. Ça, pour l'instant, c'est dans l'accord de Paris, mais on ne sait pas vraiment comment ça va se passer.
Ah ben, c'est-à-dire que si on veut effectivement atteindre les résultats et que ce soit dans une logique d'équité, ben, il faut une comptabilité. Et il faut une comptabilité fiable, il faut une comptabilité vérifiée. Il suffit pas qu'un pays dise je signe un papier, je mets ma signature sur un accord, et puis derrière, s'il passe pas à l'action à la hauteur de ce qu'il a dit, vous comprenez bien qu'il va y avoir une confiance qui va s'effondrer. Donc l'accord de Paris, il est politiquement solide, il est contraignant au sens où tout le monde est dans le bateau et donc tout le monde doit y aller. Mais il est fragile. C'est-à-dire que si à un moment l'action ne suit pas les paroles, bah bien évidemment, derrière, le soufflet va retomber, la confiance va diminuer, et puis chacun va dire, bah finalement, c'était bien d'avoir cet accord, mais finalement, on ne fait pas le nécessaire pour mettre les choses en œuvre.
David Levaille, c'est un risque, ça?
Pierre a tout à fait raison. Je pense que on subit une alternance des moments. Il y a eu un moment politique très fort en 2015, et on l'a bien vu les années précédentes d'ailleurs, pour arriver à cet accord. On attend un nouveau moment politique, et ce moment politique, ce sera 2018-2020. Ce sera le moment où les pays devront revenir à la table et présenter ce qu'on a appelé des contributions, c'est-à-dire des plans de développement de leur économie qui intègrent de façon transversale la question climatique. C'est des plans de développement urbain, des plans agricoles, des plans de transport, des plans énergétiques.
Tous les pays ont déjà rendu leur copie avant la COP21.
Tous les pays l'ont remise avant la COP21. Il y a eu des jugements divers et variés sur à la fois le niveau d'ambition qu'ont choisi de prendre les pays, la possibilité ou la réalisation possible de ces plans qui ont été soumis. Mais en tout cas, la grande avancée de l'accord de Paris, c'était de dire, peu importe quel est le point de départ, on connaît le point d'arrivée. Et donc maintenant, l'important, c'est d'avoir des cycles d'accélération. Donc tous les 5 ans, tous les pays devront à nouveau présenter un plan à 5 ans ou à 10 ans de décarbonation, de transformation de leur économie. Et donc, ce moment, il arrivera à partir de 2018. Simplement, là, on rentre dans une négociation. Je suis d'accord avec Pierre qui n'est pas tout à fait une négociation, mais une discussion technique avec des sujets qui peuvent paraître très techniques, mais qui sont hautement politiques, parce qu'ils vont préparer la suite.
Mais
et
quoi,
donc,
par
ces questions de règles de transparence, les questions de règles d'accès au financement, la question de l'aide technique, ce que Céline Affaud appelait le renforcement des capacités, c'est-à-dire la formation, le soutien, l'aide technique qui est apportée aux pays qui ne sont pas les plus allants pour pouvoir développer des politiques climatiques, pouvoir mesurer les émissions actuelles qu'ils ont. Toutes ces dispositions-là sont des dispositions juridiques, compliquées, qui devront être élaborées afin que la table soit libre, qu'on se soit débarrassé de ces sujets en 2018 pour s'adresser au vrai cœur du problème qui est concrètement, comment est-ce que chacun des pays transforme leur économie et à quelle vitesse elle le fait pour pouvoir atteindre, se limiter à 2 degrés de réchauffement.
Alors Pierre Radan, ça veut dire, on va revenir sur les dynamiques par secteur économique dans un instant, mais pour que les auditeurs comprennent bien, ça veut dire qu'à la fin de la COP22 à Marrakech, il n'y aura pas un texte comme à Paris, il va y avoir quoi ?
Il va y avoir je dirais quand même des textes, c'est-à-dire qu'après avoir les grandes lignes du contrat, il faut écrire les petites lignes du contrat. Et comme souvent dans ces cas-là, la bataille sur les petites lignes du contrat peut être aussi dure. Mais encore une fois, c'est des modalités de mise en œuvre.
Donc ça va être très technique, ça. C'est pas là-dessus qu'il faudra communiquer, en tout cas, parce que ça va être difficile de faire comprendre aux auditeurs ce qu'il y aura dans ces petits textes très techniques.
Oui, les contrats d'assurance, c'est tellement écrit petit qu'on a du mal à lire. Bon, donc je crois derrière, ce qui est important, c'est de comprendre quels sont les acteurs qui se sont mis en mouvement. Vous voyez, qui a permis cet accord de Paris ? D'abord, ça a été les scientifiques. À partir de 1985, avec le GIEC qui fait des rapports, qui a fait que finalement, il y a eu dans ce monde politique et le monde de la négociation, une culture commune qui s'est affirmée. Ça a pris des années, bien évidemment. Et puis, à partir de ça, une idée commune, encore une fois, d'un développement, d'une réorientation de notre trajectoire de développement dans ce siècle. A joué aussi un rôle considérable, tout ce qui est ONG. Bien sûr, les médias, et notamment expliquant les grandes catastrophes, malheureusement, climatiques qu'on a régulièrement dans un endroit ou l'autre du monde. La classe politique s'est mise en mouvement, les parlements se sont mis en mouvement, et puis les collectivités locales. En France, ça a été à partir du milieu des années 2000, où on a eu des plans climat territoriaux, et toutes les villes s'y sont mises, etc. Et là, maintenant, arrivent de nouvelles catégories d'acteurs. D'abord, les équipementiers, ceux qui fabriquent les matériels, qui disent ma gamme de matériel, elle était bonne pour l'ancien monde, elle n'est pas bonne pour le nouveau monde. Donc il faut que je fasse des voitures qui consomment moins, etc. Et puis, c'est mis en mouvement le secteur bancaire.
Il y a eu beaucoup de coalitions, en effet, ce qu'on appelle les coalitions d'acteurs en jargon des négociations. Il y en a plus de 70. On en parle dans un instant, parce que c'est là vraiment que les choses se passent. Juste après, Vermilion Lies, Global Warming.
RFI.
Overwhelming consensus on global warming.
Climate is changing, weather patterns are changing, and that over the long term it will have a significant impact.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
I'm worried about the future we're going to leave to our children in the world.
Des questions, des réactions. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
For centuries, the rays of the sun have warmed.
And start to prepare.
Really wet.
And I will grow
some fin.
Sushi.
Global warming.
It's hot.
C'est pas du vent sur RFI, nous parlons de ce que l'on peut attendre de la 22e conférence des Nations Unies sur le climat qui s'ouvre demain à Marrakech avec Pierre Radan, président de l'association CADD, et David Levaille, chercheur à l'IDRI. Alors Pierre Radan, on le disait juste avant cette jolie pause musicale que vous avez appréciée, je crois. Les Marocains annoncent que la COP22 sera celle de l'action. Alors comment est-ce que l'on passe d'un texte onusien à une action sur le terrain? Vous le disiez, avec l'arrivée de nouveaux acteurs.
Voilà. Alors, on a donc ce qu'on appelle des coalitions, il y a toujours un peu de jargon dans tout ça. En gros, c'est une alliance, et c'est une alliance des volontaires. C'est-à-dire que, encore une fois, on a l'accord, maintenant, sur chaque sujet, qui se met à vouloir travailler ensemble. Alors, bien évidemment, on a des États qui vont organiser ça, vont mettre du secrétariat, etc. On va avoir des groupes industriels, on va avoir des ONG. On va avoir des territoires, des collectivités locales. On va avoir du secteur bancaire. Et tous ces gens-là disent, on a des sujets qui nous intéressent, on s'y met et on s'organise ensemble pour avancer. Alors, il y a des pays qui vont être dans certaines coalitions et pas dans d'autres. C'est l'alliance de ceux qui veulent bouger.
Mais ça, c'est en parallèle des négociations, mais c'est né quand même à Paris.
C'est né à Paris, c'est-à-dire, encore une fois, va être mis de l'argent sur la table, notamment pour les pays en développement. Donc comment tout ça va s'organiser? Et puis les grands secteurs économiques sont bien sûr intéressés. Il va falloir qu'on isole nos logements. Bon, non seulement dans les pays tempérés, mais aussi dans les pays tropicaux qui vont souffrir de la canicule. Comment le secteur du bâtiment s'organise pour revoir complètement les formes d'architecture, les formes de construction, pour que ce soit adapté au changement climatique.
Il y a une coalition d'acteurs sur ce thème.
Bien sûr, il y a une coalition d'acteurs sur ce sujet-là. Je vais en prendre deux autres exemples simples. Le secteur électrique doit bien évidemment petit à petit abandonner le charbon, qui est quand même encore aujourd'hui massivement utilisé, le pétrole, garder probablement un peu de gaz, mais surtout maintenant mettre la priorité aux énergies renouvelables. Bon, l'Afrique pourrait être autonome en énergie renouvelable avec les potentiels considérables qu'elle a. Et donc aujourd'hui, c'est un changement complet des politiques énergétiques et les politiques électriques de l'ensemble du continent africain. Il y a du solaire, il y a du vent, il y a de l'hydraulique, il y a tout ce qu'il faut.
Bon. Alors, est-ce qu'il y a une coalition d'acteurs puissante sur ce sujet?
Oui,
parce qu'il y a quand même, rien qu'en Afrique subsaharienne, 620 millions de personnes qui n'ont toujours pas accès à l'électricité.
Justement. Et notamment utiliser des énergies qui sont réparties, hein, comme le solaire ou l'hydraulique, pour électrifier le monde rural en Afrique. Parce que sans électricité, bien évidemment, on ne peut pas se développer. Je vais prendre un dernier exemple, qui est l'agriculture. L'agriculture, telle qu'on l'a connue pendant deux siècles, selon la méthode du chercheur allemand là, qui s'appelait Liebig, qui ne faisait pas que du potage, qui a conçu l'agriculture chimique. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Il faut qu'aujourd'hui, on augmente le stockage de carbone dans le sol. Donc on est en train complètement de changer de pratique agricole. Donc maintenant, on va quitter l'agriculture chimique et on va rentrer dans l'agronomie. Le sol est vivant. Il faut que l'humus se reconstitue, stocke du carbone, et ça sera du carbone qui ne sera pas dans l'atmosphère, qui sera dans le sol, et qui permettra de nourrir tout le monde. Donc on est devant une nouvelle révolution agricole. Alors c'est une initiative qu'on appelle 4 pour 1000, c'est-à-dire qu'on doit augmenter de 4 millièmes le stockage de carbone dans le sol chaque année. Et donc, on est parti sur une réforme complète des méthodes agricoles partout dans le monde. Donc, vous voyez, ce n'est pas uniquement des choses, je dirais, à caractère technique. C'est des choses qui vont au cœur de la manière dont les gens fonctionnent, dont les territoires fonctionnent. Et donc, on est là maintenant dans une révolution qui est un énorme changement. Encore une fois, à Paris, notre futur a changé de direction.
Donc, David Levaille, si on écoute Pierre Radan, on se dit « c'est bon, la dynamique est en marche ».
D'une certaine manière, oui, tout à fait. Et je suis d'accord avec Pierre que non seulement ces coalitions qui sont nées à Paris ou en amont de Paris ont joué, vont devoir démontrer le rôle qu'elles jouent, mais par ailleurs, elles ont eu un rôle très important dans la réussite ou dans le succès, dans l'obtention d'un accord à Paris, parce que c'était une des stratégies qui avait été choisie par la présidence française quand ils l'ont nommé l'agenda des solutions. C'était de démontrer que non seulement les solutions existaient, qu'elles étaient possibles techniquement, qu'elles étaient possibles financièrement, aussi bien pour les transports urbains que pour le logement, que pour le bâtiment, que pour l'agriculture, que pour différents domaines, mais aussi qu'il y avait une volonté des acteurs du secteur privé, des entreprises, de prendre le leadership, de pas se retrouver dans le monde d'hier, mais d'être les premiers à explorer le monde de demain, qu'il y avait une volonté des villes, des collectivités, et donc de tous les habitants de leur territoire qui leur donnent leur légitimité, de dire « nous, on veut un monde différent et on est prêt à s'y engager ». Et donc, ça a permis aussi de soutenir les États dans leur démarche, voire d'amener les plus réticents qui se sont dit « effectivement, le monde a changé ». Et donc, il y avait à la fois cette attention sur un monde en train de changer et cette anticipation d'un monde qui va changer. Et c'est ça qui a permis ce basculement. Et donc, aujourd'hui, on est dans une situation qui est que ces coalitions, ces entreprises, ces acteurs, etc., vont devoir démontrer. Ils vont devoir démontrer non seulement qu'ils font quelque chose, qu'ils sont capables de délivrer sur les promesses, les engagements et les incantations qu'ils ont pu prendre de façon parfois de posture en amont de Paris, et qu'ils sont capables de rassembler de nouveaux acteurs, de croître et d'être porteurs de ces solutions. Et l'enjeu est extrêmement grand, parce qu'on n'est pas dans un monde qui est statique. On est dans un monde qui est en évolution. Vous parliez des villes en Afrique. Il y a aujourd'hui près de 500 millions d'urbains en Afrique. En 2040, il y aura 1 milliard d'urbains en Afrique. Donc il y a 500 millions de nouvelles personnes qui rentrent dans les villes. Quelles villes on leur construit ? Quelle énergie on leur donne ? Est-ce que c'est de l'énergie charbonnée ? Est-ce que c'est des villes très étendues dans lesquelles il n'y a aucun transport et qu'on est obligé de passer par des véhicules durables ? Est-ce que c'est des bâtiments qui seront construits de façon complètement erratique, sans aucune isolation ? Ou est-ce que c'est l'inverse et on construit des villes qui soient déjà durables et donc qui permettent aussi d'adresser la question sous-jacente fondamentale qui est la réduction de la pauvreté, la réduction des inégalités.
Donc, Pierre Radan, on est content, la dynamique est en marche. Maintenant, faut qu'on fasse quand même preuve de réalisme. Si on regarde, si on additionne toutes les contributions dont on parlait tout à l'heure que les pays ont mis sur la table, on n'est pas du tout dans la bonne trajectoire, ce n'est pas suffisant. Et puis quand on voit, là, évidemment, hein, on s'intéresse aux élections américaines qui ont lieu la semaine prochaine, quand on écoute les propos des deux potentiels candidats à l'élection, on a quand même le droit d'être inquiet, donc tout n'est pas gagné là.
Hein. Oh, non, mais d'une manière générale, on rentre dans une période de transition, qui va durer, je dirais, près d'un demi-siècle. Hein.
On a le temps d'attendre 25 ans ?
Non, mais la question n'est pas d'attendre, mais chaque fois dans l'histoire où on a changé complètement de système technique, qu'on a changé de culture économique, qu'on a changé, je dirais, de mentalité, de comportement. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, on est dans une espèce de compétition. Je dirais, le vieux monde, il ne veut pas mourir. Les entreprises qui vivent des combustibles fossiles, qui vivent des pratiques anciennes, elles ne vont pas mettre la clé sous la porte du jour au lendemain. Et d'ailleurs, ce n'est pas souhaitable. Bon, et le nouveau monde, bah, il essaie de percer, hein, les nouvelles entreprises. Bon, et donc, par exemple, au mois de mai l'année dernière, Standard & Poor's, la société de rating, a dit bah, « finalement, je vais mettre une mauvaise note à ceux qui vont du côté des combustibles fossiles, puis je vais mettre une bonne note à ceux qui vont plutôt vers le nouveau monde, parce que c'est eux qui vont avoir les marchés du futur. Donc, » Donc, on rentre dans une compétition. On rentre dans une compétition qui va être difficile, qui va être lente, qui va être ambiguë. En France, depuis l'accord de Paris, il y a eu des décisions qui ont été prises qui sont complètement contradictoires avec l'accord de Paris. Encore une fois, on va passer d'un monde à l'autre, mais ça va être progressif, ça va être lent. Et il faut essayer de le faire avec la plus grande cohésion sociale possible, que ce soit bénéfique à l'économie et à l'emploi. Et donc tout ça, encore une fois, comme le disait Céline Affo tout à l'heure, c'est une programmation, c'est une planification qu'il va falloir organiser au fil du temps. Et donc ces coalitions, c'est ceux qui veulent agir, et ceux qui veulent agir secteur par secteur, à eux, année après année, de convaincre de nouveaux acteurs de venir avec eux dans la même direction. Et donc que ce mouvement-là s'élargisse.
Mais
donc,
pour vous, ce mouvement est inéluctable?
Dans l'histoire, rien n'est jamais écrit à l'avance. Le problème aujourd'hui, c'est que les engagements, comme vous le disiez tout à l'heure, les engagements des pays ne permettent pas de faire les 2 degrés. On est plutôt du côté des 3,5. Hein, et à condition que chacun fasse la totalité de ce qu'il dit. Donc on va être dans une montée d'escalier. Il va falloir chaque année que chacun progresse. Tous les 5 ans, on refait le point tous ensemble autour de la table de négociation et on regarde quels sont les engagements, quels sont les progrès, les instruments nouveaux qu'il va falloir mettre en place. Et encore une fois, si on veut atteindre les objectifs pour 2050, bien évidemment, il faut commencer maintenant. C'est pas en 2049 qu'on va se réveiller. Hein.
Oui, parce qu'il faut rappeler que dans la deuxième moitié du siècle, normalement, il ne faut plus émettre d'émissions de gaz à effet de serre.
Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'on n'émet pas plus de gaz à effet de serre que la nature ne sait en neutraliser.
Ben, ce n'est pas gagné, mais on a bien compris, grâce à vous, messieurs,
c'est un changement de civilisation. Hein.
Que nous étions quand même dans une bonne dynamique. Qu'est-ce qu'on se dit? On se retrouve à Marrakech?
Oui.
Parce que RFI sera fortement mobilisé pour suivre cette conférence de Marrakech. Une équipe de 15 personnes sera sur place. Donc rendez-vous là-bas, messieurs. Merci beaucoup d'être venus dans C'est pas du vent. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.